Je m'appelle Ludivine et j'ai 31 ans. Actuellement, au niveau professionnel, j'ai choisi l'option d'être indépendante, de travailler à la maison. Et je suis thérapeute holistique, accompagnante, auteure. Et j'aimerais bien pouvoir développer toute ma branche artistique et créative, notamment via le dessin, la peinture, entre autres choses.
Je m'appelle Mireille, j'ai 23 ans et je suis étudiante en métier du livre en deuxième année. Et j'habite dans le sud de la France. Et voilà.
Bonjour, moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc., le développement personnel, la créativité, autant de sujets qui moi me passionnent et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Hello tout le monde! Bonne année 2022! 2-2-2, on adore ces chiffres. Non, je voulais vraiment vous souhaiter le meilleur pour vous, c'est-à-dire ce que vous vous souhaitez pour 2022, en fait. Donc, qu'est-ce que tu te souhaites pour 2022? Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux pour toi et dans ce monde? Je te le souhaite, voilà. Et moi, je suis très contente de cette année 2021 par rapport à la vie en pause parce que ça me nourrit énormément et du coup, je vous remercie sincèrement parce que, comme vous savez, ça fait plus d'un an et demi que je fais les podcasts déjà et... Enfin, ça sert en fait de thérapie en quelque sorte pour moi aussi. Ça me permet de libérer des choses que j'ai en moi de m'exprimer. Et d'ailleurs, le premier podcast là, de 2022, c'est un podcast participatif. Donc ça permet à d'autres personnes de libérer leurs paroles aussi. Vous allez écouter en fait le témoignage de Ludivine et de Nerel. Donc Ludivine, elle est en plein diagnostic, notamment diagnostic TSA. Du spectre de l'autisme et Nerel va nous parler de son rapport avec son hypersensibilité. Donc ces deux témoignages complètement différents et vraiment je les remercie infiniment toutes les deux et tous ceux et celles d'ailleurs qui ont participé au podcast participatif. Moi de mon côté ça a été une année mouvementée, on va dire, des hauts des bas. J'ai eu beaucoup de moments de gros down. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, voilà. Mais avec le diagnostic, etc. Et puis, je mets encore un petit peu de temps à me remettre de mon burn-out. Là, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis au Portugal depuis 3 semaines. Gros changement. Je reviens normalement chez moi, en France, en Bretagne, à partir de février. Mais ça y est, je commence à vraiment me sentir bien ici. J'ai mis beaucoup de temps à m'adapter. Mais c'est une super expérience, vraiment. Et voilà, après, je détaille un petit peu plus ça sur Instagram ou sur le canal privé. Voilà. Aussi, mes projets, moi, pour 2022, je vous en parle ici. C'est un peu l'occasion aussi de vous en parler. Déjà, il y a le kit d'auto-analyse TSA. Je pense que... Enfin, je vous en ai déjà parlé ici. Et en fait, le 4, ça fait maintenant 8 mois que je l'ai créé. Et du coup, le 4, j'ai décidé de le faire évoluer, d'ajuster certaines choses, de lui refaire une petite beauté, d'ajouter aussi des outils. Et du coup, il va être en maintenance à partir du 10, donc lundi 10 janvier, donc dans là, en fait, et jusqu'au 23 janvier pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, du coup, je vais lui refaire... Je vais l'améliorer. Donc forcément, il évolue, donc son prix augmente. Et il va passer du petit prix de 55 euros à 88 euros. ce qui correspond, enfin, ce que je, moi j'adore les chiffres, enfin en tout cas l'harmonie, et voilà, et du coup ça fait 8 mois, donc 88 €, et je trouve que le prix est très très juste actuellement, notamment par rapport à la valeur qu'il a pris actuellement, par rapport aux plus de 70 personnes qui ont rejoint le CAT, et merci, merci beaucoup pour votre confiance, pour votre soutien, pour tous vos messages, en fait, c'est un truc de dingue ce qui se passe, pour moi, vraiment. Et voilà, donc si vous voulez profiter du prix, vous avez encore jusqu'au 10 janvier, des 55 €, vous aurez accès forcément à toutes les nouvelles mises à jour, à partir du 23. Et voilà, et puis après, là en 2022, j'ai le gros projet aussi de vous proposer de l'auto-accompagnement. Donc l'auto-coaching, donc pareil, je vais vous créer une plateforme avec plein d'outils pour vous aider dans votre quotidien. Donc ça va s'adresser aux personnes autistes, essentiellement, ou les personnes qui se reconnaissent dans ce fonctionnement. Donc je vais vous proposer pas mal d'outils, de conseils, d'astuces, etc. Mais voilà, c'est pour l'instant, rien n'est encore trop trop défini, mais ça va être, on va dire, le projet 2022 sur la première moitié de l'année, je pense. Donc je suis très contente, comme ça, ça pourra un peu couvrir tous vos besoins. Parce que, bah, encore une fois, je constate encore à ce jour, et je pense que ça va être ça pendant un petit moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Besoin de soutien, besoin d'accompagnement, besoin d'outils concrets pour son quotidien, pour le travail, etc. Pour les personnes neuroatypiques, mais notamment moi, je m'adresse surtout aux personnes autistes. Et en fait, il y a très très peu de choses qui existent encore à ce jour. Donc voilà, je vais continuer mon contenu gratuit et puis le contenu annexe que je propose, que je crée de mon côté. Et voilà, voilà pour mon petit bilan 2021-2022. Je vous laisse maintenant avec Ludivine et Nérel. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Et puis moi, je vous dis... dans 2 semaines, je ferai un podcast certainement sur mon retour justement diagnostique à peu près 1 an après, parce que j'avais eu les résultats en mars-avril dernier. J'avais déjà eu une première partie des résultats il y a 1 an. Donc c'est important pour moi de vous faire un peu ce retour. D'ailleurs, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Et puis j'y répondrai dans ce podcast. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle écoute et à bientôt.
Je m'appelle Ludivine et j'ai 31 ans. Actuellement, au niveau professionnel, j'ai choisi l'option d'être indépendante, de travailler à la maison. Et je suis thérapeute holistique, accompagnante, auteur. Et j'aimerais bien pouvoir développer toute ma branche artistique et créative, notamment via le dessin, la peinture, entre autres choses. Ce que j'aime le plus dans la vie, je crois que c'est vraiment tout ce qui est en lien avec ma capacité d'analyse, mais aussi de compréhension du coup des autres, de la vie, du monde, des mécanismes, du psychique. J'adore comprendre l'humain, et je le comprends pas forcément très bien, mais j'adore essayer de le comprendre, et aussi j'adore apprendre. Voilà, c'est partie des choses qui me nourrissent vraiment beaucoup intellectuellement et physiquement aussi. Et c'est fort. Au moment où je vous parle, on est vraiment dans une tempête chez moi, autour. Et c'est drôle parce que la météo, finalement, elle va bien avec ce qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment. J'avoue que je ne sais pas du tout pourquoi, mais vraiment, pourquoi j'ai eu envie de faire cet audio. Il y a des pistes à ce pourquoi, bien sûr, et je pourrais en donner quelques-unes. Mais j'arrive pas à comprendre ce qui finalement me pousse encore et toujours à vouloir comprendre, participer. Je sais pas, c'est drôle. Je pense que j'ai toujours eu ce truc de vouloir aller au bout des choses. Et notamment au bout de la compréhension de qui je suis, de comment je fonctionne. De pas rester sur ses acquis, entre guillemets. Et de toujours avancer, toujours évoluer. Ça fait vraiment partie des caractéristiques qui me correspondent et qui font que on pourrait me résumer un peu comme ça. Voilà, je suis quelqu'un qui est plutôt combative et assez optimiste. Et c'est drôle d'ailleurs parce que ce truc de l'optimisme, on m'a très souvent dit que j'étais quelqu'un de solaire, qui dégageait de la lumière, un rayonnement lumineux. Mais à contrario, on m'a aussi beaucoup, beaucoup dit que j'étais quelqu'un de très pessimiste. Et je trouve ça drôle à quel point, suivant par quel bout on nous voit, on peut nous découvrir d'une toute autre manière et d'une manière qui peut être absolument pas du tout celle que l'on est vraiment. C'est pas cette personne qu'on est, c'est pas ces qualificatifs qui vont le mieux nous représenter, mais avec telle ou telle personne, dans telle ou telle relation ou situation, on va vivre cette facette-là de nous-mêmes. C'est drôle. Là, je vous parle, on est le soir pour moi. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à tourner cet audio parce que j'avais très envie de participer, en espérant de tout cœur pouvoir apporter un petit quelque chose autant que toutes les personnes qui ont participé, mais aussi Claire, ont pu m'apporter à l'écoute de ce podcast. J'avais vraiment envie de pouvoir mettre ma petite pierre à l'édifice. Mais c'est pas évident de parler de soi. Et c'est pas évident non plus de parler de soi d'une manière qui nous satisfait. Et mon souci dans l'enregistrement de cet audio, ça a été, mais elle est où ton authenticité, ta vérité dans ce que tu dis ? J'avais pas envie, en fait, qu'il y ait cette espèce de personnage, de rôle que j'ai très très bien appris à jouer, vraiment très bien. J'avais pas envie que ce soit ce personnage-là qui parle. Sauf que pour s'en défaire, c'est super compliqué. D'autant plus que j'ai la sensation d'être en plein dans cette déconstruction, d'où la tempête intérieure en ce moment. D'où la difficulté aussi de se dire, mais voilà, j'ai envie d'apporter quelque chose moi aussi, et comment est-ce que je peux apporter ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Et finalement, le fruit de ma réflexion, ça a été de se dire, bah, je pense que le mieux que je puisse faire, c'est de vraiment témoigner tel que je suis, avec ma vérité, ma réalité de ce moment-là, en espérant de tout cœur que ça apporte quelque chose. Parce que c'est vraiment ça qui est important pour moi. C'est qu'on puisse tous, par notre expérience, par notre vécu, briser les non-dits, les tabous, ouvrir des portes, et puis s'aider mutuellement avec cette espèce de savoir expérientiel, à avancer, à se comprendre, à se poser d'autres questions et à trouver des réponses.
En termes de contexte par rapport à la neuroatypie, parce qu'on est quand même là pour parler de ça, un petit peu, moi je me considère comme neuroatypique. Je me considère parce que, et non pas je suis neuroatypique, parce que j'ai pas passé encore de diagnostic qui viendrait vraiment consolider cet état de fait. Et je suis super fière de témoigner aujourd'hui en tant qu'auto-diagnostiquée. C'est important d'avoir cette représentation-là, d'autant plus que finalement l'auto-diagnostic, c'est une phase par laquelle passent beaucoup, beaucoup de personnes qui ensuite passeront le cap du diagnostic. Il ne faut pas l'oublier, cette phase, elle est importante et on y vit beaucoup de choses aussi, beaucoup d'étapes. J'ai passé un WAIS il y a 7 ans, à peu près 7 ans. En fait, j'avais commencé mes recherches sur la neuroatypie après un besoin viscéral de comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais, avec des souffrances assez nombreuses, profondes, d'autres plus superficielles, et ce besoin de pouvoir mettre des mots sur ma différence. Du coup, je me suis tournée plutôt du côté du haut potentiel intellectuel, parce qu'à l'époque, c'est ça qui était le plus représenté, qui était
le plus proche de ce que je vivais aussi. Et du coup, après des recherches, des lectures, j'ai été jusqu'au diagnostic, qui a été très facile d'accès parce que j'étais dans un centre à l'époque, j'étais étudiante. Et du coup, on a pu faire ça dans un centre pour étudiants où les consultations étaient gratuites. Mais du coup, on n'était pas sur un suivi sur du long terme avec le praticien qui m'a fait passer le test. Et donc, une déstabilisation totale lors de la passation du test. Je me rappelle que ça m'a mise dans tous mes états. Puis la personne n'était pas très bienveillante, assez jugeante. Et en plus, le résultat est que j'ai un profil trop hétérogène pour pouvoir en dire quoi que ce soit. Donc, je suis ressortie de là vraiment déçue et en colère. En colère parce que c'était la première fois que je cherchais autant des réponses et que je pensais pouvoir les trouver auprès d'un professionnel de l'accompagnement, de la santé mentale. Et finalement, je me suis pris dans la figure que le HPI, c'était un phénomène de mode et qu'il fallait que j'arrête de me prendre pour qui je n'étais pas. Ça m'a été dit un peu comme ça. Donc, Et puis énervée aussi parce que j'avais pas de réponse et que j'avais vraiment besoin de savoir qui je suis, mettre des mots dessus, expliquer pourquoi j'étais autant en décalage avec ce monde dans lequel je vis et que je comprenais pas. Et j'étais déçue de pas en trouver, déçue de retomber dans ma case départ. Du coup, j'ai continué à avancer, j'ai été sur le chemin de l'acceptation, de la guérison, de la paix, pour pouvoir apaiser de nombreuses blessures, notamment suite à des violences sexuelles que j'ai subies dans ma vie. Et il a fallu passer par là, il a fallu aller apaiser tout ça, aller réconforter la petite fille que j'ai été, l'ado, la jeune femme, à différents stades de ma vie. Donc j'ai un peu mis de côté finalement la piste de la neuroatypie pendant un temps, jusqu'à ce qu'elle me saute littéralement au visage, mais vraiment. Et ça fait 7 ans que ça fait que ça. J'ai l'impression que c'est un boomerang. Je renvoie le boomerang de la neuroatypie très fort en disant « mais je ne veux plus entendre parler ». Et à chaque fois, elle me revient dans le visage, mais d'une violence. Oh, c'est dingue. À chaque fois, je me dis « mais non, c'est pas ça, ça explique pas les choses ». Et comme j'ai toujours été assez naïve, vraiment quand on me dit, surtout un professionnel de santé me dit « non, c'est pas ça, cherchez d'un autre côté, il y a d'autres pistes pour expliquer vos fonctionnements, vous êtes quelqu'un de trop sensible, c'est tout ». Ben moi, je le crois. Et je me dis, ah oui, c'est sûrement ça, bien sûr. Et c'est qu'après coup, le temps que l'émotion, elle monte, le temps que les choses montent au cerveau, et je me rends compte à un moment, mais attends, il y a un problème. Ce que tu ressens, c'est complètement pas du tout en accord avec ce qu'on vient de te dire. Pourtant, tu disais que tu étais d'accord, mais il me faut un temps de réaction à chaque fois, et ça ajoute au mal-être, finalement. Au fait de me dire, mais je suis super bizarre. Je dis oui, en fait, je le pense pas. Du coup, en 7 ans de recherche, parce que ça fait... Ce chiffre-là, il est important pour moi, parce que ça fait vraiment 7 ans que j'ai la sensation d'avoir ouvert la porte à la recherche de mon identité, de ma quête identitaire. Et pendant ces 7 ans, j'ai vécu beaucoup d'allers et retours, de boomerang que je renvoyais violemment en me disant... Non, c'est pas la neuroatypie, c'est autre chose. Et puis ensuite, peut-être que si, mais ça revient. Et puis après, on le renvoie parce que c'est trop dur à digérer, c'est trop dur à comprendre. C'est trop dur à trouver des interlocuteurs, à mettre des mots dessus, à se faire aider là-dedans, dans cette démarche-là. Donc à chaque fois, je le renvoie. Jusqu'à récemment. Et je pense que ça fait partie de mes pourquoi qui me poussent à parler aujourd'hui et à poser mon témoignage en tant qu'auto-diagnostiqué. Depuis récemment, ça fait quelques années que j'ai été confrontée à autre chose dans la neuroatypie que le haut potentiel intellectuel. notamment à l'autisme, l'hypersensibilité et les troubles du comportement. J'ai travaillé avec des enfants notamment qui étaient polyhandicapés, mais aussi autistes. Et j'ai été confrontée à pas mal de violence en moi. Beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Et j'arrivais pas à m'expliquer pourquoi les comportements d'enfants notamment, qui faisaient juste ce qu'ils savaient faire ou ce qu'ils étaient, enfin ils faisaient leur vie quoi, pourquoi ça, quand je rentrais chez moi, ça pouvait parfois me mettre autant en colère de voir ces enfants qui juste étaient eux-mêmes et j'arrivais pas à comprendre. Mais je me souviens de plusieurs fois d'être rentrée chez moi et de me dire « Waouh, enfin c'est violent » et je ressentais une colère pas contre les autres mais contre moi-même et ça réveillait beaucoup beaucoup de douleur en moi. Et j'ai fait le tri plus tard et je me suis dit « Peut-être que ces enfants me renvoyaient simplement à quel point je ne m'autorisais pas à être moi-même » et je m'autorisais pas à me lâcher, à vivre avec mes pulsions, avec mes besoins atypiques. Et je pense que c'est l'analyse que j'en avais faite et que je trouve encore assez pertinente aujourd'hui. Et j'ai été confrontée ensuite à l'autisme plusieurs fois et je me rappelle plus les déclics exacts, mais là il y a quelques mois, ça s'est ouvert d'un coup. Et je me suis retrouvée vraiment face à l'autisme en me posant la question pour la première fois, mais et si c'était l'autisme? Avec ou en ajout du haut potentiel intellectuel, où j'avoue que je ne sais pas trop comment me prononcer sur ce notamment le test que j'ai passé, mais aussi sur le résultat donné. Je ne sais pas trop, donc je laisse l'hypothèse en suspens. Et finalement, j'ai entamé des recherches très approfondies sur le sujet, en autodidacte, sans être suivie par personne, pas de psy, pas d'accompagnant, rien. Et je me suis retrouvée énormément, autant dans les témoignages que j'ai pu retrouver sur le sujet, alors plutôt des personnes qui vont être dans des fonctionnements qui vont me ressembler, bien sûr, parce qu'il y a autant de personnes autistes que de personnes, forcément. C'est un spectre très très large dans lequel on va avoir, par exemple, j'ai bien aimé Alistair sur YouTube qui parle, sur sa chaîne YouTube H Paradoxae, qui parle du fait que sur, par exemple, l'hypersensibilité au bruit, on peut très bien avoir des personnes autistes qui vont être très sensibles à certains bruits, par exemple aigus, et d'autres plutôt à des bruits graves, mais possiblement ça peut dépendre du contexte aussi, de la fatigue de la personne, de comment elle se sent, de est-ce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas entendu ce bruit-là, et du coup ça peut aller dans les premières secondes où elle va l'entendre. Enfin, qu'en fait, il y a autant de façons d'être hypersensible au bruit, pour cet exemple précis, qu'il y aura de personnes autistes. Et finalement, je me suis retrouvée plus dans ces témoignages que je trouvais beaucoup plus humains et réels que dans les recherches que j'avais pu faire à l'époque sur l'autisme. J'avais fait des recherches très très courtes il y a des années pour voir un peu qu'est-ce que c'est que ce concept-là, parce que c'était flou dans ma tête, je comprenais pas. Et les représentations qu'on en a dans notre société, enfin en tout cas qu'on en avait, c'est vrai qu'on en a encore, parce que on dépasse pas trop les clichés. Que ce soit dans les films, les documentaires, les reportages, certains livres, on est quand même sur certains, 3-4 catégories, 3-4 stéréotypes de l'autisme, et puis on voit pas trop autre chose. Et notamment, on voit beaucoup l'autisme aussi au masculin, et je me reconnaissais pas du tout dans les autistes, dans les personnes autistes masculines. enfin de genre masculin. Je suis très maladroite avec ces questions de genre, j'ai pas le bon vocabulaire, donc je voilà, excusez-moi si je suis pas inclusive dans ma façon d'en parler, c'est que je suis très maladroite sur ça, mais je pense les choses dans l'inclusion à mon fort intérieur. Mais voilà, je me reconnaissais pas, moi je me considère femme, et je me reconnaissais pas chez les hommes qui vivaient l'autisme, dans la vision que j'en avais, mais dans ce qu'ils en racontaient. Et j'ai pas pu m'identifier à des personnes. J'ai rencontré des personnes qui étaient au potentiel intellectuel, mais dans mon quotidien, j'avais pas rencontré d'adultes autistes. Ou alors, je le savais pas. Ça n'a pas été dit. Jusqu'à un moment où j'ai fini par rencontrer des personnes adultes autistes et où bah, ça a conforté mon hypothèse et mon besoin d'aller chercher du côté de l'autisme. Et donc me voici, me voilà à parler de tout ça après avoir écouté tout le podcast de Claire, à peu près tous les épisodes, après avoir lu un tas de recherches, regardé des vidéos, j'ai lu deux thèses sur le sujet aussi, j'ai été me renseigner sur des associations en ligne, sur ce qu'ils pouvaient faire comme info ou formation sur le sujet. Et j'ai fait une analyse de comment je fonctionne, dans le détail. Alors j'ai pas envie de vous en parler forcément là, parce que c'est pas l'idée. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà, ici sur la vie en pause, mais aussi ailleurs, qui ont déjà parlé très bien de certaines catégories qu'on va retrouver dans les traits de l'autisme. Donc je vais pas détailler ça, enfin ça a pas de sens pour moi, mais voilà, je vous laisse aller regarder ou écouter ou vous renseigner sur le sujet. Mais dans toutes ces différentes catégories, c'est très riche parce qu'il y a autant... Il y a des catégories très fermées parce qu'il y a une catégorisation qui existe pour pouvoir poser un diagnostic, donc c'est assez froid, c'est assez fermé. Mais à l'intérieur, comme il y a autant de personnes autistes que de personnes, eh ben, du coup, on peut retrouver vraiment des comportements qui vont pas du tout être les mêmes, mais globalement, on va retrouver certaines choses. Et en fait, c'est quand je me suis laissée aller à me dire « Ah, mais être autiste, par exemple, c'est pas uniquement se rouler en boule quand ça va pas et se balancer d'avant en arrière. » À un moment, je suis tombée sur une vidéo où on expliquait que « Bah non, mais l'autisme, ça peut être... Si ça va pas, t'as besoin de te mettre dans ta bulle, mais tu peux te balancer d'avant en arrière, mais aussi de droite à gauche. T'es pas obligé de te balancer. Enfin, tu peux faire autre chose. » Il y a d'autres gestes, il y a d'autres comportements qui vont être réconfortants pour toi, qui seront propres à toi. Et quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, bah, je me suis dit, tiens, bah ouais, je me reconnais du coup. Il y a des choses pour lesquelles je me reconnais. Et ce qui est chouette, c'est que bah, ça m'a permis, en fait, donc comme je disais, j'ai commencé une espèce d'analyse sur moi-même où j'ai rempli un cahier entier format A4, je suis trop fière de le dire, de notes où je note tous mes comportements sur des aspects qui me font penser ou qui se rangent carrément dans les catégories du diagnostic de l'autisme. Et à force de faire ça, et c'est ça qui est chouette, c'est que finalement j'ai vraiment œuvré à la connaissance de comment je fonctionne et de qui je suis. Et ça, c'est sympa. Parce que j'ai vraiment posé des mots, j'ai pu comprendre certaines choses, par exemple des mots forts comme hyper-focalisation sur un sujet, sur une activité, cette sensation d'avoir une vision laser et que je sors pas de ce truc. On relie ça aussi aux intérêts spécifiques où on va avoir comme une passion, mais plus fort encore, dans le sens où la passion... Elle est là, elle est présente, mais l'intérêt spécifique, c'est vraiment c'est ce qui nous permet de nous nourrir, mais aussi de vivre, de nous rassurer, d'exister, de communiquer. L'intérêt spécifique chez les autistes, c'est pas uniquement c'est ma passion du moment, c'est vraiment quand on a un sujet duquel on peut parler, ce sera notre intérêt spécifique, envers et contre tout. parce que c'est grâce à ces intérêts spécifiques qu'on se sent bien. Je dis plein de choses en vrac et je perds complètement le fil de ma pensée. Et c'est bien, ça va faire une transition vers un autre autodiagnostic que j'ai pu poser, qui est les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Je suis plutôt sur la piste avec hyperactivité, mais on peut ne pas en avoir. Et du coup, pareil, moi j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai passé des tests en ligne, il y a plein de choses qu'on trouve sur internet très intéressantes, hein. C'est pas forcément du test trouvé dans des revues voilà, en 5 questions, c'est notamment sur les TDAH, c'était un test par, alors je sais plus, j'ai plus la référence, The Mini Coach sur Instagram, un truc comme ça, The-Mini-Coach, qui propose un questionnaire très détaillé et très intéressant, qui est une coach, et sur le TDAH. Donc voilà, enfin, je fais pas mal de petites choses, et je me suis rendu compte qu'il y avait des liens qui se faisaient là-dedans aussi. Donc voilà, cette difficulté à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, peut-être aussi un peu une pensée arborescente quand même, qui va dans tous les sens et qui a du mal à être rattrapé par mes petites mains quand je cherche à retrouver mes idées. Et du coup, voilà, la description qui n'a aucun sens. Me voilà en autodiagnostic, en fait. Je n'arriverai pas à exprimer. J'ai beaucoup de mal à argumenter, à justifier, à exprimer aussi. Quand je fais quelque chose ou quand je lis quelque chose, donc c'est pour ça que j'esquive un peu le problème. Et je voulais plutôt vous parler du coup de ce que j'arrive bien à raconter, qui est le bilan, l'analyse, après avoir analysé un peu a posteriori, de ce que j'ai pu vivre. Et du coup, à travers toutes ces recherches, finalement, ce qui en ressort, c'est que je me reconnais beaucoup. Et c'est pas juste une reconnaissance en mode phénomène de mode, justement, mais c'est profondément dans cette quête de soi et ce besoin de savoir, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'ai. Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai des problèmes? Est-ce que j'ai un handicap ou plusieurs? Et toutes ces questions, c'est des questions que j'ai vraiment posées au psy quand j'ai suivi plusieurs thérapies dans ma vie. Et c'est vraiment des questions que j'ai posées. Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis malade? Etc. Tout de suite, moi, je pointais du doigt la dépression, la bipolarité, et je ne savais pas comment expliquer mes souffrances. Et dans cette quête de soi, de pouvoir poser des mots concrets de comportements qu'on ne s'est aussi pas autorisé à vivre, du style tout ce qui est ce qu'on appelle les gestes stéréotypés ou le steaming aussi, tous ces petits gestes qu'on peut faire pour qui nous rassurent mais qui peuvent accompagner de la joie, de la colère, une interrogation, enfin plein de choses. Autoriser en fait le corps à faire ce qu'il a besoin de faire naturellement, ça aussi, c'est tout des choses, des comportements physiques très pulsionnels comme psychique, il y a plein de choses que je me suis empêchée de vivre, de faire. Et que finalement, je sois autiste ou pas, ça fait du bien de lâcher l'élastique et de s'autoriser à... Par exemple, quand je suis contente, je vais tout de suite être surexcitée et je vais sauter partout. J'ai besoin de sauter. Et en agitant les mains de haut en bas, en même temps. Et ça fait partie des choses où quand on est content, c'est plus facilement acceptable de faire passer un comportement comme ça. Mais voilà, ça dépend où, quel contexte, etc. Mais il y a plein d'autres comportements que j'ai jamais osé vraiment libérer. Et je me suis rendu compte aussi avec toutes ces recherches à quel point je suis un sacré caméléon. Et je pense avec le recul que c'est ça qui fait le plus souffrir. C'est parce qu'on n'est pas soi-même et que du coup, c'est le bordel dans sa vie, dans sa tête. J'ai passé beaucoup de phases à En fait, je passais des phases de grande énergie, et puis pendant des mois, une ou plusieurs années, et après je m'effondrais complètement, pendant des mois aussi, de fatigue, je faisais que dormir, manger un peu et tout, mais pas beaucoup plus. Et j'ai eu la chance, pendant deux phases comme ça, basses, à pouvoir rester chez moi sans avoir à bosser, sans avoir à gagner d'argent. Donc c'était chouette de pouvoir s'autoriser à vivre cette phase-là. Mais à chaque fois, il y a ce mécanisme d'épuisement qui revient, parce qu'en fait, on peut plus, quoi. Moi, je pouvais plus vivre à côté de moi-même, je pouvais plus cacher, camoufler sans arrêt. Physiquement, le corps lâche. C'est pas... En fait, ce qui nous fait avoir un déclic, c'est pas mentalement, on se dit « Ah là là, je souffre beaucoup, c'est étrange, je pense que c'est dû à un décalage dans la société, ça doit être de... de l'hypersensibilité, ou HPI, ou de l'autisme, ou autre chose, etc. » C'est vraiment... Moi, c'est... Enfin, je trouve que c'est vraiment ça, c'est le corps, il parle, il dit « Stop, faut arrêter là. » Et en général, c'est quand on va trop loin par rapport à nous, nos limites mentales, ou ce qu'on estime être allé trop loin, qu'on se dit « Mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi j'en suis là dans ma vie ? Faut que je comprenne. » Donc voilà, moi ça fait 7 ans que j'essaye de comprendre. je comprends toujours pas, et en ce moment je suis dans une phase où le côté imposteur et illégitimité revient plus. C'est très désagréable, parce que j'étais super contente de pouvoir peut-être poser des mots, de faire un autodiagnostic. Certes, c'est un autodiagnostic, mais c'est déjà super bien de pouvoir faire ça. Mais en ce moment, c'est vraiment une déconstruction identitaire très violente qui s'opère en moi, parce que je sais pas du tout qui je suis, en fait. Et là, mon faux self, il est en train de voler en éclats. C'est super inconfortable, mais je suis quand même contente parce que je sais que c'est nécessaire. Et je prie très fort, je suis pas croyante, mais je crois en la vie. Et je prie très fort en priant la vie que cette fois-ci, j'arrête de reconstruire un faux self derrière et que je me laisse et que je m'autorise à être vraiment moi-même. Ça va peut-être faire le tri dans les personnes qui me côtoient, bien que j'ai pas énormément de relations. Mais c'est pas grave. Le peu de personnes qui me côtoient, c'est pas grave. J'en ai marre de vivre à côté de moi-même, j'en ai marre des décalages, j'en ai marre d'être une pâle copie superficielle de tout ce que j'ai pu voir dans les films, lire dans les livres. Moi, j'ai envie de vraiment incarner qui je suis, et c'est trop de souffrance de pas vivre en étant soi. Et même si nos besoins ils sont atypiques, même si... on a une façon de communiquer qui est particulière, de couper la parole tout le temps, ou j'en passe, je donne des anecdotes personnelles, mais c'est ça, de pas trop savoir comment on fait une conversation avec quelqu'un, de est-ce que je dois demander « mais et toi, comment ça va ?» Enfin, plein de choses. Au fond, en fait, tout ça, bah, c'est... Voilà, je pense qu'on finit par apprendre à l'accepter au fur et à mesure, parce que à force de vivre avec soi-même tel que l'on est, je suis convaincue qu'on apprend aussi à s'aimer. Et se dire que, bah, on est... toutes ces personnes neuroatypiques, on est des personnalités sensibles et rigolotes et fun. Et je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est qu'on découvre à quel point on a du potentiel. Donc voilà. Je sais pas si j'irai au bout du diagnostic avec des professionnels, parce que j'ai eu beaucoup d'autres déconvenues avec d'autres professionnels de la santé, de l'accompagnement. Donc j'ai un peu peur. Mais au jour d'aujourd'hui, bah, pour résumer, c'est le bazar. je sais pas, on verra. Mais j'avais envie de déposer ce message-là aujourd'hui pour dire que pas quoi que vous fassiez, quoi que vous ressentiez, si vous vous sentez différent, faut aller au bout. de vos recherches pour être soi-même OK avec ce que l'on vit et après, diagnostic ou pas, à voir, mais au moins aller au bout de vos propres certitudes pour pas lâcher et pour pas se lâcher. Quel que soit notre système de croyance, qu'on croit qu'on ait plusieurs vies, qu'on se réincarne ou pas, enfin, c'est pas ça l'important. C'est la vie qu'on est en train de vivre, on l'aura une seule fois. C'est ça que je veux dire, c'est que bah il faut la vivre. Et vivre à côté de soi, c'est trop dommage. Même si on le fait pas exprès et qu'on aimerait bien que ça se fasse autrement, mais voilà, faut y aller et essayer au moins.
Du coup, je m'appelle Nerelle, j'ai 23 ans et je suis étudiante en métier du livre en deuxième année. Et j'habite dans le sud de la France. Et voilà. Alors, j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a 2-3 ans. Et c'est en lisant le livre d'Hélène Aron et en me posant des questions sur le sujet que j'ai pu remarquer ça. Du coup, en lisant ce livre, je me suis dit que ben, je l'étais certainement. Et ce qui m'a poussée à comme ça, c'est ma grande sensibilité qui commençait à me poser des problèmes au quotidien. Enfin, en fait, c'était difficile de percevoir beaucoup des émotions, des stimuli visuels, des stimuli auditifs. Et j'étais très fatiguée et du coup j'avais besoin de trouver des solutions pour aller mieux par rapport à ça. Et j'ai essayé de trouver des solutions. Alors, je me sens différente de la norme parce que je me sens plus sensible que les autres personnes. Et en fait j'ai l'impression d'avoir une sensibilité qui n'est pas la même. J'ai plus besoin de temps pour me reposer, je perçois les émotions des gens, je prends les énergies, je suis sensible à la lumière, au son, à plein de choses en fait. Et depuis toute petite en fait je me suis sentie toujours assez différente des autres. Je commence à trouver ma place depuis quelques temps en faisant des études métiers du livre, mais c'est encore un peu flou, il y a encore des moments où je me dis que je suis trop sensible ou trop décalée dans ce monde. Déjà petite, je me mettais entre les conflits de mes camarades, de mes copines de cours, parce que j'arrivais pas à ignorer leurs émotions négatives. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Et je me sens vraiment à ma place dans la nature, dans les endroits calmes, comme les bibliothèques, avec des gens sensibles aussi, ou introvertis. Et j'ai besoin de moments seuls pour recharger les batteries, et de moments calmes. Je me sens ma place dans l'art aussi, dans la création artistique. Alors mon hypersensibilité au quotidien, elle se traduit par plein de choses. Une plus grosse fatigue, comme je l'ai dit auparavant. Ressentir les émotions des autres et les énergies. Avoir énormément besoin de temps de repos. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de stress et d'anxiété qui sont dus à cette sensibilité quand il y a une lumière trop forte qui vacille, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a des odeurs trop fortes, on a des choses qui arrivent, ça m'épuise très rapidement. Et en fait, j'avais envie de partager un petit peu des citations de livres d'Hélène Aron qui sont très parlantes par rapport à ça. Les causes de stress seront toujours présentes car nous emportons notre sensibilité avec nous où que nous allions. Donc en fait, on est toujours sensible. Et du coup, si on est dans une foule, s'il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'émotions, bah, c'est d'autant plus compliqué. Son besoin, c'est d'un nouveau mode de vie qui nous apprendra à tolérer les facteurs de stress. Pour tolérer le monde et finir par l'apprécier, il faut s'y plonger. C'est vrai que souvent, on a envie d'avoir un monde où les gens se pressent moins, où ça va plus lentement, où on prend en compte les émotions et les énergies. On a plus de temps de repos, plus de temps de pause. mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Et quel sentiment merveilleux que d'y réussir, de pouvoir créer au monde, regardez-moi, moi aussi je peux le faire. Les personnes créatives ont besoin de solitude, si nous demeurons seuls trop longtemps, nous perdons notre sens de réaliser, notre capacité d'adaptation. Soyez à l'écoute de votre corps, votre sensibilité est un cadeau magnifique. Avec au quotidien, c'est mon intestin, mon estomac qui me prévient de ma sensibilité, et mon corps qui m'envoie des signaux que j'apprends à écouter et qui me dit « là tu vas être fatiguée, là tu vas ressortir les émotions et tout ça ». Et en général, la sensibilité, ça va aussi avec beaucoup de création et beaucoup de... Pour moi, ça passe par l'écriture et les mandalas. Pour beaucoup d'hypersensibles, la nature est profondément apaisante. Notre âme ressent parfois le besoin d'analyser des questions profondes, c'est une âme essentielle. Il faut au contraire prendre la route de l'expression de soi. La sensibilité peut vous guider, vous ouvrir en elle, vous améliorer toute la capacité de votre vie. Donc oui, en fait, c'est pour être... pour avoir une vie difficile, moins fatigante, on va dire. Essayer de trouver des possibilités différentes. Après, je pense que ça dépend des contextes, ça dépend des envies de l'environnement aussi, de l'entourage énormément. Et des fois, avec certaines personnes, je suis plus sensible que avec d'autres, donc ça dépend aussi de ça. Et ma qualité, enfin mon nombre d'heures de sommeil aussi. Au quotidien, je le vis bien. Avant, je le vivais très mal, mais depuis quelques années, je commence à le vivre mieux. Même si c'est très fatigant. Mais c'est beau à la fois parce que ça me permet de vraiment d'adhérer à la vie, d'avoir une perception du réel qui est magnifique, mais c'est très fatigant en même temps. Ce qui est difficile, je dirais, c'est le stress, l'énergie qui s'en va très rapidement, de percevoir tout ça et d'absorber, de rien pouvoir en ressortir, enfin de rien pouvoir exprimer tout ça. Qu'est-ce qui m'aide au quotidien? Prendre soin de mon sommeil. Passer du temps seul, écrire mes émotions vers l'art, en parler, être avec des personnes sensibles, me protéger beaucoup, écouter de la musique, regarder Boulkiès, prendre du temps toute seule. Ce qui est facile, c'est les émotions dans les produits culturels et aussi la nature, tout ce qui est humain, en fait, les relations, l'intelligence émotionnelle, les relations intrapersonnelles. Et mes talents, alors, je suis très forte pour les langues et pour conseiller des livres. Et en général, j'aime bien écrire, donc je dirais que les langues, le voyage, l'écriture, l'art, le mandala. Et j'aime bien connecter aux enfants aussi, aux animaux. Et je voulais aussi dire une phrase d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui dit « Je sais aujourd'hui que cette vulnérabilité est la sœur de la création, le berceau des émotions, il ne faut pas en avoir honte. » Je trouvais ça très beau. Une maison, cela peut être un lieu, un être, une sensation, une ville. Elle est en nous. En réalité, il est facile de sentir notre entrailles quand on est vraiment soi. C'est vrai que quand t'as des choses qui nous plaisent ou des talents, on peut ressentir vraiment le fait d'être soi-même. Et ça aide pour accepter son sensibilité et pas la refuser. Et vraiment l'accepter pleinement et la vivre. Voilà. Je pense que c'est vraiment une belle force et une belle chose que d'être hypersensible. Je pense que les gens qui le sont doivent vraiment être fiers et... Et je leur souhaite de garder cette merveilleuse âme. Voilà. Alors, je voulais partager une petite anecdote avec vous. Enfin, plusieurs anecdotes qui me sont arrivées par rapport à la sensibilité dans ma vie. Il y en a une qui est assez marquante. C'est la première fois que j'ai voyagé, en fait, toute seule. Et que je me suis retrouvée face à un coucher de soleil dans un train. J'étais éblouie, j'étais émoustillée par cette magnifique trésor de la nature. Et je sentais bien que j'étais la seule à ressentir cet éblouissement et ce bonheur. Et régulièrement, je me pose des questions par rapport à des gens que je rencontre. Et mon intuition me dit toujours de soit continuer à leur parler, soit continuer à leur parler. Et c'est vrai que je l'écoute beaucoup, mon intuition, depuis que j'ai accepté ma sensibilité. Et c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment personnel. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je vis plus intensément, comme la caresse du soleil sur la peau, sentir le goût des aliments, avoir des odeurs très fortes, des images visuelles très fortes. Les voix aussi sont très importantes pour moi, c'est des sons. Il y a tout un panel qui s'ouvre. Et il y a aussi des émotions plus vives. Comme le matin, je peux pleurer, être triste et avoir envie de tout arrêter. Et l'après-midi, être super motivée, super heureuse et avec plein de joie. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petite, je pensais que tout le monde était comme ça. Et je me suis rendu compte en grandissant que pas du tout. C'était très dur parce qu'il y a des gens qui profitent de cette sensibilité pour faire du mal. Et moi, je ne me rendais pas compte de ça. J'étais très... très très contente d'être comme ça et je cherchais pas à être autrement. Par exemple, je peux lire un petit extrait de choses sensibles. Aujourd'hui, il y a eu des moments de pur carpe diem comme le goût de la confiture de figue, l'amertume du thé noir, la concentration pendant que je méditais, le soleil du jour qui caresse ma peau, la lune cachée par les nuages dans le ciel, la sérénité et la paix ressentie quand j'écris mon journal, l'envie délicieuse de solitude et de liberté. C'est vraiment des choses qu'on ressent avec tout le corps, en fait, des émotions très précises, de quelque chose de très corporel, très... je sais pas, très, très corporel. Je vais l'expliquer autrement que comme ça. Encore un autre extrait de journal, on va dire, de ces sensations. Déguster du petit rond, boire du thé chaud, ramasser les feuilles mortes, sortir les écharpes et les gros pulls quand on est frileuse comme moi. Ça ressenti par rapport à la musique. La voix d'Agnès Sobel, c'est El Naïm, m'apaise beaucoup. La première est suédoise et la deuxième est israélienne. Elles chantent toutes les deux en anglais avec une voix douce, émouvante, joyeuse et très aiguë. À la fin de leur journée, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais comment je me sens. Oui, il y a cette sensation. Cette musique du Lulatom m'apaise, je ne réfléchis plus, c'est merveilleux. Je me sens bien avec du silence complet, avec une musique douce ou enfantine dans les oreilles. Cette musique, comme du sucre d'orge, pour mes conduits auditifs. Allumer de l'encens, respirer par le ventre doucement, sans réfléchir. Un bonheur pour l'âme et l'esprit des hypersensibles. C'est vraiment la respiration, c'est vraiment prendre le temps de faire les choses plus lentement, un peu une slow life. C'est vraiment important des choses comme ça, je trouve. Un autre exemple, c'est toujours les gens se souviennent des cours, ils se souviennent de plein de choses. Mais moi, je me souviens toujours des petits détails que personne ne s'en rend compte, genre la lumière de la couleur de la lumière, les voix de chaque personne, leur position, leurs sentiments, ce qu'elles ont ressenti à tel moment. Vraiment des détails que les gens ne perçoivent pas. Quand j'entre dans une pièce, je sens l'ambiance de la pièce, les énergies. Des choses que les autres ne perçoivent pas et que moi, je capte très vite. Comme des petites antennes, comme si j'avais des antennes de partout, comme si une énorme éponge qui absorbe tout, qui ne peut rien recracher, quoi. C'est un peu l'idée. Après, généralement, les personnes se fassent souvent avec l'anxiété pour moi. C'est un peu similaire, mais c'est pas non plus totalement opposé. Mais je trouve que ça permet de créer des relations plus profondes et plus humaines, et qu'il y a une forte appétence avec l'art, en fait, qui fait que toujours beaucoup un énorme besoin de créer et de pouvoir exprimer ses émotions à travers l'art. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui étaient hypersensibles et que c'est important de montrer ça comme ça aussi, d'une manière plus positive.
Voilà, le podcast participatif est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura aidé. Et je remercie infiniment Ludivine et Nerel qui ont témoigné, qui ont accepté en fait de témoigner aussi ici. Voilà, je les remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sache que si toi tu as envie de témoigner à ton tour, c'est possible. Tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram, donc sur la.vie.en.pause, ou alors par mail. Donc mon adresse mail, c'est lavieenpausepodcast@gmail.com. Voilà, lavieenpausepodcast, tout attaché, @gmail.com. Donc il te suffit juste de me dire que tu as envie de participer et puis je t'enverrai toutes les informations. Sinon, tu peux aller sur Instagram, normalement il y a toutes les infos à dispo. Voilà, donc merci encore les filles, merci encore à tous d'être encore là et d'écouter les podcasts que je propose et les podcasts participatifs aussi de ces personnes. Et je vous dis à très bientôt, je vous aime fort, bye. Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner,
partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.